VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en direct de Washington DC. Bienvenue à cette édition du mercredi 4 avril 2018. À la une ce soir, Cameroun, les autorités affirment avoir libéré 12 touristes italiens et suisses sans préciser la date de leur enlèvement ni le lieu où ils ont été libérés. Les présidents turcs, russes et iraniens s'engagent en vue d'un cessez-le-feu durable en Syrie. Le patron du HCR est en République démocratique du Congo. Kinshasa accuse les ONG et l'ONU d'exagérer les chiffres sur la crise humanitaire. 4 avril 68, 4 avril 2018, cela fait 50 ans depuis l'assassinat de Martin Luther King. Dans 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au Cameroun, un communiqué du ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary, annonce la libération par l'armée de 12 touristes italiens et suisses enlevés à une date indéterminée en zone anglophone. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
7 Suisses et 5 Italiens qui ont été libérés se trouvaient avec une organisation appelée African Adventure Group, d'après le communiqué d'Issa Tchiroma Bakary, ministre de la Communication. Le porte-parole du gouvernement a affirmé qu'ils avaient été enlevés par des séparatistes alors qu'ils se trouvaient sur le site de Twin Lakes, deux lacs situés dans le secteur de Koupé-Manenguba. Aucune indication n'a été donnée sur la date de leur enlèvement et les conditions de libération. Sho Ayaba, chef de l'Ambazonia Defense Forces, un des groupes armés séparatistes, a démenti être l'auteur de ce kidnapping. M. Tchiroma a ajouté que 6 conseillers municipaux ont aussi été libérés lors d'une opération militaire dans la région du Nord-Ouest. Il a aussi laissé entendre que dans de récents accrochages, plusieurs dizaines de séparatistes ont été abattus par l'armée qui a saisi des stocks d'armes, de munitions et de la drogue.
Filippo Grandi, le haut-commissaire aux réfugiés des Nations Unies, est en République démocratique du Congo pour une visite officielle. Un déplacement sensible car les autorités congolaises accusent l'ONU et les ONG d'exagérer la crise humanitaire dans le pays. Claire Morin-Gibourg.
Arrivé hier à Kinshasa, Filippo Grandi débute son séjour en RDC par des rendez-vous avec les autorités du pays et des rencontres avec la communauté humanitaire et diplomatique. Le haut-commissaire aux réfugiés des Nations Unies se rendra ensuite dans plusieurs localités dans l'est du pays pour rencontrer des réfugiés et des déplacés et pour évaluer la situation humanitaire. Le gouvernement congolais a annoncé son refus de participer à une conférence coprésidée par l'ONU et l'Union européenne pour lever 1,7 milliard de dollars le 13 avril à Genève. Léonard Che Okitundu, ministre des Affaires étrangères, a affirmé que malgré les difficultés budgétaires, son pays allait accorder 100 millions de dollars pour la détresse humanitaire, selon ses termes. 10 millions de dollars devraient être décaissés en faveur des réfugiés congolais de retour au pays ou des déplacés internes.
Concernant la RDC toujours, l'opposant en exil Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle de décembre, doit être jugé fin juin dans une affaire de recrutement de mercenaires. C'est ce qu'annonce la Défense qui déplore l'impossibilité de faire appel. Burundi, le Conseil de sécurité de l'ONU exhorte le pouvoir à dialoguer avec l'opposition dans la perspective des élections envisagées en 2020. C'est une déclaration adoptée par le Conseil de sécurité qui se dit profondément préoccupé face à la situation politique dans le pays. La lenteur des progrès du dialogue inter-burundais dirigé par la communauté d'Afrique de l'Est et l'absence d'engagement du gouvernement à cet égard. Les élections envisagées en 2020 doivent être libres, juste, transparente, pacifique, pleinement inclusive, avec la participation de toutes les parties politiques et assurer une pleine participation des femmes au processus, affirment les 15 membres du Conseil de sécurité. Guinée, un tribunal de Conakry a requis 2 ans de prison contre l'opposant Ibrahima Sory Camara. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril. Membre du principal parti d'opposition, l'UFDG, il est poursuivi pour outrage, injure et diffamation à l'encontre du président Alpha Condé. Un djihadiste malien a été présenté aujourd'hui au juge de la Cour pénale internationale. Alassane Ag Abdulaziz Ag Mohamed Ag Mouahmoud devra répondre des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis à Tombouctou en 2012 et 2013. Il est accusé d'avoir participé à la destruction de mausolées et d'être responsable de viols et d'esclavage sexuel commis dans le contexte de mariages forcés. Des accusations de torture pèsent également contre lui. Lors de sa première apparition devant la CPI, il s'est plaint d'avoir été placé dans une pièce avec une caméra de surveillance, estimant que ses conditions de détention nuisent à sa dignité et au respect de sa vie privée. Une filière d'immigration clandestine depuis la Côte d'Ivoire a été démantelée dans le sud de la France. Au total, 5 jeunes qui se disaient âgés de 15 à 17 ans, mais auraient en réalité 18 à 20 ans, ont été présentés à un juge pour escroquerie et fraude sociale. Soudan, le procureur de la Sûreté de l'État accuse l'ancien Premier ministre et principal dirigeant de l'opposition de collaboration avec les rebelles pour renverser le régime du président Omar el-Béchir, selon un média soudanais. Sadek al-Mahdi, dernier Premier ministre démocratiquement élu du Soudan, avait été chassé par le coup d'État fomenté en 89 par le général el-Béchir, l'actuel président. Malgré la révolution, la torture continue en Tunisie. C'est ce qu'affirme l'Organisation contre la torture en Tunisie. L'ONG dénonce le recours persistant à des méthodes très dures, notamment dans des postes de police. 6 ans après la fin du régime policier de Ben Ali, cette ONG a été saisie avec 80 cas de violations physiques et tortures, selon son rapport annuel. Libye. La cour d'appel de Tripoli a acquitté Sadi Kadhafi, troisième fils de l'ancien dictateur Muammar Kadhafi, du meurtre en 2005 d'un entraîneur de football.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, les présidents russes, iraniens et turcs se sont engagés lors d'un sommet à Ankara à coopérer pour un cessez-le-feu durable en Syrie. Nathalie Barge.
Dans un communiqué final, Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Poutine et Hassan Rouhani ont réaffirmé leur détermination à coopérer activement en Syrie en vue de parvenir à un cessez-le-feu durable entre les belligérants. Ils ont en outre souligné leur volonté d'accélérer leurs efforts pour assurer le calme sur le terrain, protéger les civils et faciliter un accès rapide de l'aide humanitaire. Pendant ce temps, les États-Unis sèment le doute sur un éventuel retrait de leurs troupes. Le chef du renseignement américain, Dan Coats, a annoncé ce mercredi que l'administration de Donald Trump avait pris une décision sur l'avenir de la présence militaire américaine en Syrie et l'annoncerait bientôt. Monsieur Trump a exprimé à plusieurs reprises son souhait de retrait rapide des quelques 2000 soldats américains déployés en Syrie pour lutter contre le groupe État islamique.
10 Palestiniens accusés de préparer des attaques à la roquette contre des navires de la marine israélienne au large de la bande de Gaza ont été arrêtés, c'est ce qu'indiquent les autorités. 3 experts des droits de l'homme de l'ONU dénoncent la situation inhumaine des migrants dans le nord de la France. Ils logent dans des tentes, sans toilettes et se lavent dans des eaux polluées d'une rivière ou d'un lac, ont-ils souligné, estimant que des efforts ont été faits, mais qu'ils ne sont pas suffisants. Ils exhortent donc Paris à faire davantage pour leur fournir eau et abri d'urgence. Par ailleurs, la France a indiqué à la Commission européenne qu'elle allait prolonger ses contrôles aux frontières jusqu'à la fin octobre, en raison de la persistance de la menace terroriste. C'est ce que rapporte l'AFP, citant un porte-parole de la Commission. La Chine a sorti l'artillerie lourde ce mercredi dans son conflit commercial avec Washington, annonçant des droits de douane sur les importations américaines de nombreux produits, dont le soja, l'automobile et l'aéronautique, des produits qui pèsent lourd dans la balance, John Hindon.
Quelques heures après la publication mardi par l'administration Trump d'une liste provisoire de produits importés susceptibles d'être soumis à de nouveaux droits de douane, Pékin a répliqué avec sa propre liste visant des importations du même montant annuel, 50 milliards de dollars. Il s'agit d'une nette escalade vers une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Le président américain Donald Trump a dénoncé dans la foulée sur Twitter l'immobilisme supposé de ses prédécesseurs face au déficit commercial avec
avec Pékin et au vol de propriétés intellectuelles par la Chine. Pas moins de 106 familles de produits américains devraient être frappées de droits de douane de 25%, notamment les secteurs automobiles, produits chimiques, whisky, cigarettes, soja et avions de moins de 45 tonnes, ce qui exclut a priori le géant Boeing des mesures de rétorsion chinoises. Le ministère chinois du commerce a précisé que la date de l'entrée en vigueur de ces mesures serait annoncée ultérieurement. Au total, le montant cumulé des produits visés par les deux pays atteint désormais les 100 milliards de dollars, soit environ 17% des 580 milliards d'échanges commerciaux bilatéraux en 2017.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on enchaîne sur La Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Le Millennium Challenge Corporation va injecter 35 millions de dollars au Togo pour stimuler la croissance et réduire la pauvreté dans le pays. Ce financement sera utilisé dans deux secteurs clés de l'économie togolaise, le foncier et l'accès aux technologies de l'information et de la communication. Le programme permettra d'améliorer l'accès des populations à des services de qualité à moindre coût, encourager les investissements privés pour un développement plus inclusif et favoriser la formation de l'accès à la terre. Le désert gagne du terrain dans le Sahara. Une étude de l'Université du Maryland affirme qu'il a avancé de 10% sur les terres au nord et au sud. La baisse de la pluviométrie et l'impact des activités humaines sur les changements climatiques expliquent cette extension. Les retombées risquent d'être désastreuses pour le Sahel. L'élevage et l'agriculture constituent les principaux moyens de subsistance pour les populations locales. Le bassin du lac Tchad est particulièrement vulnérable. La Chine a sorti l'artillerie lourde dans son bras de fer commercial avec Washington. Pékin a annoncé des droits de douane sur les importations américaines, notamment le soja, l'automobile et l'aéronautique. Ces produits pèsent lourd dans la balance. Pas moins de 106 familles de produits américains devraient être frappées de droits de douane de 25%. Mardi, l'administration Trump avait publié une liste provisoire de produits chinois susceptibles d'être soumis à de nouveaux droits de douane annuels de 50 milliards de dollars. Washington vise les secteurs de l'aéronautique, les technologies de l'information et de la communication ou encore la robotique.
Un peu sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Suite des quarts de finale de la Ligue des Champions ce soir.
Et le feu d'artifice en cours à Liverpool, les Reds mènent 3-0 à la mi-temps à domicile face à Manchester City. Mohamed Salah a ouvert le score dès la 12e minute de jeu, bientôt imité par son coéquipier Chamberlain. Et Sadio Mané, le Sénégalais, complète cette grosse domination. Dans l'autre rencontre au Camp Nou, le Barcelone de Lionel Messi mène 1-0 après un but contre son camp de De Grossi.
Hier, Ronaldo a encore prouvé qu'il était galactique.
Et oui, le Real Madrid, double tenant du titre, a écœuré la Juventus Turin chez elle 3-0 pour se rapprocher des demi-finales de cette Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo a saigné un doublé à la 3e et 64e minute, dont une magnifique bicyclette en seconde période. Avant la break réalisée par Marcelo, le match retour, il est prévu en Espagne le 11 avril. Dans l'autre quart de finale de la soirée, le Bayern de Munich a fait parler son expérience pour étouffer Séville. Une victoire 2-1 avec deux buts amenés par l'inusable Franck Ribéry. Séville avait pourtant ouvert le score. Au passage, Morgan, c'est la 12e victoire consécutive pour Jupp Heynckes comme entraîneur en Ligue des Champions. Un record absolu.
Wow. NBA, championnat de basket nord-américain.
Eh bien, évidemment, on parle, hein, c'est bientôt les playoffs. Et d'un côté, pour Cleveland, LeBron James, la superstar des Cavaliers, qui a inscrit 27 points pour battre les Toronto Raptors 112 à 106. Dans l'autre rencontre de la soirée, Philadelphie, les Sixers, évidemment déjà qualifiés. Eh bien, ça a été une promenade de santé pour eux face aux Nets de Brooklyn, 121 à 95. Miami souffle aussi de son côté. 9e la saison passée, le Heat a validé son ticket pour les playoffs en battant Atlanta 101 à 98. Pour les Spurs de San Antonio, le coach est raté. Les Spurs qui ont raté un joker en s'inclinant chez les Clippers de Los Angeles, 110 à 113. Utah qui s'impose face aux Lakers de Los Angeles, 117 à 110. Et puis James Harden, toujours en course pour être le MVP de cette saison. Houston qui a battu Washington, 120 à 104. Côté des Warriors, Golden State, Kevin Durant a réussi son retour face à Oklahoma City. Une victoire 111 à 107.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec en votre compagnie, place au dossier du jour. Au Congo-Brazzaville, la session criminelle qui s'est ouverte la semaine dernière ne s'occupe pas de deux affaires emblématiques, les cas du général Jean-Marie Michel Mokoko et le ministre André Okombi Salissa, tant attendus dans le pays. Leurs avocats appellent simplement à leur libération et les juristes demandent le respect du pouvoir judiciaire. Sur place, Ngolan Gossou.
La session criminelle s'est ouverte à Brazzaville avec une centaine d'affaires, mais rien sur les gros dossiers politiques, notamment les procès de Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa, deux anciens candidats à la présidentielle de 2016. Encore moins sur le pasteur Ntomi, chef de la milice ninja dans le pool et sur lequel pèse toujours un mandat d'arrêt et la charge d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Clément Mirassa a milité aux côtés du général Mokoko.
Nous avons suivi la cassette de Tony Moudilou qui dit qu'en réalité il n'est pas arrêté pour cette affaire de coup d'État que nous avons découverte après qu'il ait annoncé sa candidature, qu'il y aurait d'autres affaires. Il s'agirait peut-être de ce que l'on appelle communément atteinte à la sûreté de l'État. Puisque les Congolais découvrent que le gros motif, le gros crime maintenant, c'est celui-là. Alors qu'il y a des situations de vol, de crimes, de scandales économiques qui ne préoccupent nullement. Donc nous pensons que sur cette question, il faut être transparent. Ça veut dire que nous sommes dans une situation où on met en exergue, non pas la force du droit, mais le droit de la force. Et il faut que ça cesse.
Maître Yvan Eric Ibuanga, avocat dans les deux affaires politiques, dit ne pas être surpris par l'absence de ces dossiers.
Ces dossiers, d'un point de vue juridique, sont totalement vides. Il n'y a pas un seul dossier qui soit en l'état d'être présenté devant la session criminelle. Il y a plus d'une année que le général Jean-Marie Michel Mokoko, l'ancien ministre et l'ancien député de l'ICANA, M. André Okombi Salissa, sont en détention préventive en violation de la loi. Ce seraient les premières affaires à être instruites, puisque ce sont les dossiers qui défraient la chronique.
Pour Christian Bouanga, juriste proche du gouvernement, la justice fait correctement son travail et le politique ne devrait pas influencer le pouvoir judiciaire.
L'exécutif a émis un vœu politique, puisqu'il monte de la population une certaine grogne. Pourquoi ces personnes ne sont pas jugées? Alors, pour résoudre de manière définitive ces interrogations, le chef de l'État a émis le vœu que, à l'occasion de la prochaine session criminelle, tout au moins en cette période-là, ces questions soient examinées. Mais ces sessions criminelles n'ont pas été préparées à partir des incarcérations d'acteurs politiques, n'est-ce pas? Donc, il s'agit aujourd'hui pour le magistrat de voir si les dossiers en instruction, en rapport avec certains acteurs politiques en privation de liberté, sont à maturité.
Plusieurs magistrats estiment cependant que ces deux dossiers politiques pourraient intervenir avant la fin de la session criminelle. Nguela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur la vie et l'héritage de Winnie Mandela, décédée lundi à l'âge de 81 ans. Comment a-t-elle contribué à la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud? Quel rôle a-t-elle joué en tant que militante de l'ANC durant les 27 années de prison de son époux Nelson Mandela, l'icône de la nation arc-en-ciel? L'image de celle que le peuple sud-africain appelait affectueusement Winnie a-t-elle été écornée par des dérapages politiques et des affaires de corruption? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h15.
Escalade dans le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine. Quelques heures après la publication d'une liste provisoire de produits chinois susceptibles d'être soumis à de nouvelles taxes, Pékin a répliqué en visant des importations américaines d'une valeur de 50 milliards annuels. Peut-on déjà parler de guerre commerciale? C'est la question qu'Abdouramandia a posée à Bruno Larue, spécialiste du commerce international à l'Université Laval du Québec.
On peut déjà parler de guerre commerciale parce que c'est des mesures de représailles. Donc, c'est des réponses finalement là, aux tarifs américains sur l'acier et l'aluminium. Donc, ils avaient menacé de mettre ces mesures-là si les États-Unis persistaient à vouloir imposer là, des tarifs sur les exportations chinoises d'acier et d'aluminium. Donc, aujourd'hui, l'annonce a été faite. Donc, c'est effectivement une guerre commerciale qui vient d'être amorcée.
Les marchés, notamment la bourse de New York, ont chuté ce matin avec, par exemple, Boeing, dont la Chine est le deuxième marché. Quels sont les secteurs qui pourraient être affectés par cette guerre commerciale?
Évidemment, il va y avoir des pertes commerciales pour les deux pays. Dans ce genre de guerre commerciale-là, il n'y a personne qui ressort gagnant. Donc, lorsque le président Trump a dit qu'on peut faire des guerres commerciales facilement et les gagner facilement, c'est faux. Surtout pas contre des partenaires comme la Chine. Si les États-Unis ripostaient ces mesures-là, il pourrait y avoir là, une spirale et puis effectivement, il y aurait un très, très grand nombre d'industries qui seraient touchées. Habituellement, lorsqu'il y a des mesures de représailles, le but, c'est de faire le plus mal possible politiquement. Donc, on vise des secteurs où il y a des industries où ils sont localisés qui représentent un certain enjeu politique. Le président Trump a des appuis là, dans le Midwest, donc c'est pas surprenant que les Chinois, finalement, aient décidé d'imposer des mesures sur les exportations américaines de soya.
Donc, quand le président Trump dit qu'une guerre commerciale est très facile à gagner, ce n'est pas vraiment évident.
C'est pas vrai du tout. Donc, habituellement, dans des situations comme celle-là, des experts de chacun des pays vont discuter pour essayer de s'entendre pour éviter qu'il y ait des pertes trop lourdes.
Mais en même temps, le président Trump explique que le déficit commercial avec la Chine, qui est de plus de 500 milliards de dollars, est trop lourd et qu'il faut faire quelque chose. N'a-t-il pas raison quelque part?
En fait, c'est à lui de convaincre les consommateurs américains de réduire leurs achats de produits chinois. Puis honnêtement, je doute que ça va arriver. Les consommateurs, en fait, bénéficient beaucoup du fait que les produits chinois soient pas taxés. Donc, c'est des gains, en fait, pour les États-Unis. Donc, qu'il y ait une balance commerciale négative avec la Chine, ça reflète finalement les préférences des consommateurs américains.
Bruno Larue de l'Université Laval du Québec. Ce 4 avril marque les 50 ans de l'assassinat du révérend Martin Luther King Jr. À travers sa méthode de contestation non violente, il a fait avancer de façon drastique le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Retour sur le combat d'un homme qui a marqué l'histoire de son pays, mais aussi le XXe siècle, au même titre que Nelson Mandela ou Mahatma Gandhi, dit Didico.
Ces dernières heures, il les a vécues comme il a vécu sa vie, en se battant pour les droits civiques des Américains. Assassiné au lendemain d'une rencontre avec des éboueurs afro-américains à Memphis, dans le Tennessee, Martin Luther King Jr. était venu soutenir ses travailleurs en grève afin qu'ils obtiennent un traitement similaire à celui des éboueurs blancs. Il croyait fermement au processus légal, à l'importance d'adopter de nouvelles législations, mais il lui semblait indispensable de faire usage du pouvoir de l'union, du rassemblement, à l'image de la marche de Washington en 1963, lorsqu'il a prononcé ce fameux discours.
Je rêve qu'un jour notre nation se lèvera.
Bien avant sa mort, Martin Luther King Jr. était considéré par ses contemporains comme un symbole de justice sociale, de paix et d'entente nationale. Mais avant cette réconciliation, de grandes batailles ont dû être gagnées. Parmi elles, celle de Montgomery, en Alabama. Elle demandait du courage et de la persévérance, car la confrontation était inévitable. Le député John Lewis nous raconte.
They came toward us, beating us with nightsticks, trampling us with horses.
Ils sont venus vers nous, nous ont battus avec des matraques, piétinés avec leurs chevaux, aspergés de gaz lacrymogène. J'ai été matraqué à la tête par un policier.
Quelques jours après la répression féroce de cette bataille pour le droit de vote des Noirs dans les États du Sud, la justice avait autorisé Martin Luther King Jr. à marcher de Selma à Montgomery, accompagné de milliers de manifestants.
Nous devons montrer au monde qu'il est nécessaire de protester contre ce monstre à trois têtes. La discrimination face au droit de vote, la négation de ce problème et la répression policière.
Un an plus tard, en 1964, le président Lyndon Johnson signait le Civil Rights Act. Et en 1965, le Voting Rights Act devenait une loi.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Lionel Gaïma, présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On continue la conversation sur Facebook. Partagez vos points de vue, vos photos, commentez des sujets, posez des questions et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wenpanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le 12 mars, le premier ministre de la Santé et d'Hygiène publique de Côte d'Ivoire a organisé à Abidjan la réunion initiale sur la première étude nationale sur l'impact du sida qui a porté sur plus de 20 000 personnes à ce jour. L'étude, appelée « Évaluation de l'impact du sida sur la population de Côte d'Ivoire » ou CIFIA, a pour objectif de tester un échantillon représentatif de la population ivoirienne pour ensuite utiliser des modèles statistiques afin de mesurer le niveau actuel de la pandémie du sida en Côte d'Ivoire. Le projet CIFIA est financé par le plan d'urgence du président américain pour l'aide contre le sida, le PEPFAR. La Côte d'Ivoire fait partie des 13 pays en passe de contrôler l'épidémie du sida d'ici 2020 grâce à la récente stratégie d'accélération du PEPFAR. La réunion du comité d'organisation du projet CIFIA a fourni des directives stratégiques ainsi qu'une supervision de l'étude ayant commencé en août 2017. Jusqu'ici, environ 11 000 ménages y ont participé et ont donné leur échantillon de sang. Les résultats préalables du CIFIA sont attendus pour décembre 2018. Selon Catherine Bracker, chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis, ces estimations sont des projets complexes et j'applaudis le haut niveau d'engagement des tant d'intervenants dans ce projet. Des représentants du Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies ont assisté à la réunion, à l'invitation du Dr Raymond Goudou Goffi, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est elle qui préside le comité et a été représentée par son directeur de cabinet. Lors de cette réunion, le Dr G. Laïssa Ouedraogo, directrice pays du CDC, a expliqué qu'une fois achevé, le projet CIFIA aidera la Côte d'Ivoire à mieux cibler sa prévention et ses efforts de traitement du sida. Celle-ci a également loué le ministère pour son leadership et son expertise. Les représentants de l'Institut national des statistiques ainsi que l'Organisation mondiale de la santé ont également intervenu au début de la rencontre. Le Lesotho, le Malawi, le Swaziland, l'Ouganda, la Zambie ainsi que le Zimbabwe ont mené à bien des évaluations similaires de l'impact du VIH sur la population au cours des 18 derniers mois, soutenus par le PEPFAR. Le CDC et d'autres participants, tels que l'ICAP de l'Université de Columbia, aident aussi le gouvernement avec ses études. Et selon la chargée d'affaires Bracker, les États-Unis et la Côte d'Ivoire ont un partenariat très ancien en termes de santé publique, datant de plus de 30 ans. Nous sommes conscients que des bonnes données scientifiques sont essentielles pour parvenir au contrôle de l'épidémie de sida VIH. Je suis donc réconforté par ces discussions productives sur l'utilité des résultats du projet CIFIA.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.